un journal présenté ce soir par Anne-Laure Jumet. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir. Des milliers d'Américains à Washington pour une manifestation contre le racisme, 57 ans après le mythique discours de Martin Luther King, I have a dream, et une colère ravivée après les décès de George Floyd et Jacob Blake. Nous appellerons notre correspondant Grégory Phillips au début de ce journal. Qui pour succéder à Shinzo Abe au Japon? La question se pose après l'annonce de sa démission. C'est le Premier ministre lui-même qui a fait part de son départ prochain pour raison de santé. Lui qui avait battu un record de longévité en tant que chef du gouvernement au pays du soleil levant. L'émotion des soutiens de l'avocate turque Ebru Timtik, décédée d'une crise cardiaque après une longue grève de la faim. Emprisonnée depuis 3 ans, elle réclamait le droit à un procès équitable. Ses soutiens ont défilé à la mi-journée à Istanbul. Récit à suivre d'Anne Andlauer. Le masque obligatoire à partir de demain 8h à Strasbourg et dans 12 autres communes du Bas-Rhin. Depuis ce matin, ce sont les Parisiens et les habitants de 3 départements franciliens qui sont soumis à cette obligation dans tout l'espace public. Nous serons à Aubervilliers pour faire le bilan de cette première journée. Et puis quand l'artiste Banksy vient au secours des migrants, un bateau financé par ses soins est venu hier en aide à 89 personnes en mer Méditerranée. Une opération préparée depuis 1 an, nous racontera Benjamin Recouvreur. C'est une manifestation à la résonance toute particulière qui se tient en ce moment à Washington, 57 ans après le discours de Martin Luther King, I have a dream, et surtout dans un contexte de colère face à la police, après la mort des Afro-Américains George Floyd et Jacob Blake. Sur place, on retrouve notre correspondant Grégory Phillips.
Face au mémorial de Lincoln sur le National Mall de Washington, ils sont maintenant des milliers. Le slogan de la manifestation, enlevez votre genou de nos coups, allusion bien sûr à la mort brutale de George Floyd à Minneapolis il y a 3 mois. Sa famille d'ailleurs est présente aujourd'hui, tout comme celle de Jacob Blake, invité par l'avocat qui les représente, Ben Crump, la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris est aussi attendue. Dans la foule, beaucoup de familles, on porte des t-shirts Black Lives Matter, les vies noires comptent, on dit sa peine et sa colère face aux violences policières. Question: est-ce que les choses vont changer après la présidentielle de novembre? J'aimerais bien, dit une manifestante, qui votera démocrate, mais son amie est plus dubitative. Regarde, depuis notre bataille pour les droits civiques, la situation est toujours la même. Nos enfants afro-américains risquent leur peau dans les rues de ce pays. Après les discours, la foule impressionnante a prévu de marcher quelques centaines de mètres jusqu'au mémorial Martin Luther King, qui il y a 57 ans, jour pour jour, prononçait ici son discours « I have a dream ».
Grégory Phillips à Washington, vous l'aurez bien sûr rectifié, Jacob Blake, qui n'est pas encore décédé, qui n'est pas décédé, qui est à l'hôpital. Son père, d'ailleurs, regrette sur CNN le voir attaché avec des menottes sur son lit d'hôpital. Et puis, à noter ces déclarations de l'ONU aujourd'hui, qui estime que l'affaire Jacob Blake vient rappeler la nécessité, je cite, d'une action urgente pour éradiquer les liens entre le racisme structurel et le maintien de l'ordre. Le début d'une nouvelle ère politique au Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé son intention de démissionner pour raison de santé, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Au pouvoir depuis 2012, celui qui est aussi président du Parti libéral démocrate avait initialement l'intention de rester aux commandes du pays jusqu'à septembre 2021. Lui qui avait battu le record de longévité d'un Premier ministre au pays du soleil levant. La question de sa succession reste encore en suspens. Karine Nishimura nous appelle de Tokyo.
Qui pour succéder à Abe? Demandez dans la rue aux citoyens lambda, vous n'aurez pas un nom s'imposant comme une évidence, mais plusieurs sans grande conviction.
Pour les citoyens, le préféré peut être l'ex-ministre de la Défense Ishiba, mais bon...
On l'appelait Abe tout-puissant ou Abe le meilleur. Au sein de son parti, seule grande formation politique de l'archipel, il fallait être derrière lui, mais pas contre, sinon on disparaissait presque du paysage. Sûr de rester encore au moins 1 an en fonction, il n'a formé personne pour lui succéder. Il faudra bien cependant désigner un successeur, mais les postulants les plus souvent cités ne soulèvent pas les foules. Qu'il s'agisse du ministre des Finances, Taro Aso, qui fêtera bientôt ses 80 ans, ou du porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, bientôt 72 ans.
Peut-être Aso dans un premier temps, mais il a déjà occupé le poste.
C'est un peu des gens qui pensent à l'ancienne, non?
Ce ne sont pas les électeurs qui choisiront, mais l'omnipotent parti d'Abe, où va se jouer une énième bataille de clans.
Karin Nishimura à Tokyo pour France Culture. En Turquie, la mort d'une avocate emprisonnée depuis presque 3 ans, Ebru Timtik, est décédée hier soir d'une crise cardiaque à l'hôpital. Elle avait entamé une grève de la faim il y a 8 mois pour réclamer le droit à un procès équitable. Après avoir été condamnée à 13 ans et demi de prison pour appartenance à une organisation terroriste, aujourd'hui, ses collègues et amis lui ont rendu hommage devant le barreau d'Istanbul. Reportage d'Anne Andlauer, notre correspondante sur place.
Ebru Timtik est immortel. Sur leur robe noire à col rouge, des centaines d'avocats ont épinglé la photo de leur consoeur de 42 ans, décédé quelques heures plus tôt, au 238e jour de sa grève de la faim. Ahmet Kiraz, un avocat franco-turc au barreau d'Istanbul, lui avait rendu visite en prison il y a quelques mois.
Je lui avais expliqué que leur cause avait été entendue, qu'on était tous sensibilisés, mais qu'en fait on ne pouvait pas faire grand-chose pour changer la situation. Et que les dirigeants de ce pays-là, eh bien, ils s'en foutaient complètement de la justice et d'un procès juste.
L'État assassin rendra des comptes, reprennent en chœur les avocats. Certains, comme Melike Polat, pleurent leur colère.
Si une avocate a pris le risque de mourir de faim pour réclamer un droit aussi fondamental que le droit à un procès équitable, alors plus aucun citoyen ne peut croire en la justice de ce pays.
Ebru Timtik espérait depuis plus de 3 mois que la Cour de cassation annule sa condamnation. Le 14 août, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa demande de remise en liberté, estimant que ses jours n'étaient pas en danger. Le député d'opposition Sezgin Tanrıkulu dénonce un acharnement de la justice, donc du pouvoir.
Cette affaire montre à quel point la justice est aux ordres du pouvoir politique qui a fait en sorte que cette avocate reste incarcérée jusqu'au bout. Notre priorité maintenant, c'est de tout faire pour ne pas perdre un second confrère.
Aytaç Ünsal, un autre avocat poursuivi dans le même procès, est en grève de la faim depuis 206 jours.
Anne Andlauer à Istanbul pour France Culture. En France, le masque gagne l'espace public. Demain, il sera obligatoire à Strasbourg et dans 12 autres communes du Bas-Rhin de plus de 10 000 habitants. Annonce tout à l'heure de la préfète du département qui souligne une accélération inquiétante du Covid-19, en particulier chez les jeunes. Depuis ce matin, ce sont les Parisiens et les habitants de 3 départements franciliens qui sont soumis à cette obligation, comme en Seine-Saint-Denis, où le nombre d'habitants sous le seuil de pauvreté est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce qui pose bien évidemment la question du coût de ce masque devenu obligatoire dans la rue. Une obligation d'ailleurs compliquée à faire respecter par tout le monde, comme nous l'avons constaté dans les rues d'Aubervilliers. Reportage Mathilde Bouquerel.
Passants, clients des différents commerces, vendeurs de cigarettes à la sauvette ou de maïs grillé, il y a beaucoup de monde en ce début d'après-midi autour de l'entrée du métro 4 chemins et encore beaucoup de visages sans masque malgré le décret. Pour Mireille, qui passe par là avec son petit garçon, il faut un temps d'adaptation.
Dans les rues, c'est pas tout le monde, mais dans les magasins, les milieux publics, je vois des gens qui mettent les masques.
Donc c'est plus respecté à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Oui, vu que c'était pas obligatoire dans les rues, il y a quelques temps peut-être, maintenant comme c'est obligatoire, les gens vont le respecter.
Et c'est vrai que Walid, par exemple, était complètement passé à côté de l'information.
Ah non, je sais pas, franchement. J'ai pensé que au transport commun, au grand magasin, mais pas dans les rues.
Djibril aussi a le visage à découvert. Agent d'entretien pour la RATP, il porte un masque sur ses heures de travail, mais il ne comprend pas l'intérêt d'en avoir un en extérieur.
Quand tu es dans des commerces, dans des endroits fermés, oui, là, je le mets direct dans le transport. J'ai entendu des spécialistes, des gens qui ont le doctorat en médecine, qui disent que c'est pas obligatoire en plein air, que ça sert à rien, que c'est pas nécessaire. Donc finalement, on ne sait pas à quel sens se vouer, quoi.
Une attitude que ne comprend pas Thérèse, masque jetable sur le visage à la sortie d'une pharmacie.
C'est pour notre sécurité, donc on doit le faire. Ça me désole ceux qui ne le font pas, mais bon, c'est un budget. Surtout quand on a une grande famille, oui, ça pèse.
Vous avez beaucoup d'enfants ?
Non, pas beaucoup. 2, plus mon mari, ça fait quand même 4.
L'amende pour non-port du masque s'élève à 135 euros.
Notez aussi qu'à Bordeaux, le port du masque sera obligatoire à partir de lundi dans la majeure partie du centre-ville. Et puis dans le département de l'Hérault, la préfecture a annoncé qu'il était désormais interdit de danser dans les bars et les établissements recevant du public. Le port du masque est une contrainte raisonnable que nous devons accepter pendant un temps. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin en visite dans un laboratoire pharmaceutique en banlieue parisienne. Le chef de l'État qui a annoncé par ailleurs que 15 milliards d'euros seraient consacrés à l'innovation et aux relocalisation dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros présenté jeudi prochain. La souveraineté économique est en effet un thème qui s'est imposé lors de cette crise, cette dernière révélant notamment notre dépendance à l'Inde et à la Chine en termes d'approvisionnement en médicaments. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a annoncé une réforme des procédures d'autorisation des médicaments qui s'appliquera à compter du 1er janvier prochain. Une réforme absolument nécessaire, selon Frédéric Brizard. Il est professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. La France, dit-il, est moins compétitive que ses voisins, et notamment l'Allemagne.
Il y a un écart à plusieurs niveaux, notamment en matière de temps d'accès au marché, entre le moment où vous déposez un dossier d'AMM et le moment où véritablement le produit est lancé. Vous avez en France à peu près 500 jours, c'est-à-dire plus d'un an. En Allemagne, c'est de l'ordre de 100 jours. Donc vous voyez le temps de commercialisation perdu sur des médicaments qui sont très stratégiques. D'abord, c'est un risque de perte de chance pour le patient. Il y a un vrai impact sur le plan sanitaire, puisque ce sont des médicaments qui couvrent en général des pathologies graves et des médicaments qui ont souvent une forte innovation. Bon. Mais c'est aussi une perte d'attractivité pour notre tissu industriel, parce que c'est un écosystème, l'industrie. Il faut, en général, les industriels produisent là où les médicaments sont le plus découverts, là où la recherche et le développement sont les plus actifs. Et on s'est fait doubler en matière de recherche et de développement par les Italiens et par les Allemands. Et donc, s'en est suivi une perte de compétitivité en matière de notre tissu de production. Donc, tout est lié. Et là encore, je veux dire, la relocalisation du Doliprane ou des produits courants est plutôt un message négatif envoyé. Et ça ne permettra pas de retrouver notre compétitivité globale.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. Le triptyque crise sanitaire, vacances et canicule a découragé les donneurs de sang. Les réserves sont très basses avant la rentrée, alerte l'établissement français du sang qui lance un appel d'urgence aux dons. Face aux agressions de chevaux qui se multiplient dans toute la France, le ministre de l'Agriculture promet la mobilisation de tous les services pour que justice passe. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires va apporter son concours aux enquêteurs. Plus d'une trentaine de cas de chevaux mutilés ont été recensés dans plus d'une dizaine de départements. Il s'appelle le Louise Michel, un bateau conçu pour secourir des migrants en mer Méditerranée et financé par l'artiste Banksy. Hier, il est venu en aide à 89 personnes, un projet indépendant qui a été préparé pendant un an dans le plus grand secret. Benjamin Recouvreur.
Camille fait partie de l'équipe de 4 personnes qui a monté ce projet autour de l'activiste allemande Pia Klemp, que Banksy a contactée. Elle était en charge de la préparation technique du bateau.
On a réussi à rester sous le radar pendant un an. Le bateau est un super bateau, une ancienne vedette des douanes françaises qu'on a racheté à un particulier qui lui-même l'avait acheté au domaine. La préparation, c'est toute la phase de transformation d'un bateau qui n'était pas fait pour faire du sauvetage en mer à un bateau qui maintenant peut accueillir des gens récupérés dans la mer avec une petite partie pour traiter des urgences graves si jamais il y a des problèmes médicaux. Voilà.
Parti le 18 août de Valence, en Espagne, ce bateau long de 31 mètres a secouru hier 89 personnes, dont 14 femmes et 4 enfants.
On peut dire que ces gens vont bien, hein, aussi bien qu'on puisse aller après avoir passé des mois dans une prison à se faire torturer et des heures et des heures et des heures à dériver sur un bateau absolument pas fait pour ça au milieu de la mer. Après, c'est des gens fragiles qu'il faut absolument mettre en sécurité.
Peint en rose avec un dessin de Banksy sur le côté, le bateau Louise Michel est aussi un projet politique qui dénonce le manque de solidarité de l'Europe.
Les gens parlent de crise migratoire, c'est pas une crise migratoire, hein, c'est une crise de solidarité. Ça s'inscrit aussi dans une vision globale d'un monde qu'on voudrait plus juste, où il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs des vies.
La démarche est aussi antiraciste et féministe. Seules des femmes peuvent parler en son nom. Aujourd'hui, le bateau est dans l'attente d'une autorisation pour débarquer dans un port.
Benjamin Recouvreur. Un nouveau retard pour l'EPR finlandais. Un an de plus avant la mise en service du réacteur nucléaire de troisième génération, construit par Areva et Siemens. Soit 12 ans de retard au total par rapport au calendrier initial. Le produit intérieur brut en France a chuté de 13,8% au deuxième trimestre, une confirmation de l'INSEE et un effondrement inédit depuis 1949. À noter aussi une épargne au plus haut, les Français auront économisé 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. 18h14 sur France Culture, le retour désormais du dossier de la cellule d'investigation de Radio France. Avec nous en studio Philippe Reltien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez enquêté avant même la crise sanitaire sur la mouvance collapsologue et les survivalistes. Ils sortent renforcés par cette crise, même si leur principal ennemi n'est pas tellement le virus, mais bien le productivisme.
En effet, c'est une mouvance convaincue que le monde actuel va s'effondrer et qui est représentée par plusieurs penseurs. L'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet, notamment, ou encore Pablo Servigne, qui tire pour nous ici les enseignements de la période qu'on est en train de traverser.
Ça nous a montré deux choses paradoxales. La première, c'est que, en fait, on peut arrêter la méga-machine. Et on a vu à quel point ça faisait du bien aux écosystèmes, aux vivants, aux sauvages, aux animaux, etc., qui pouvaient un peu renaître et se régénérer. Ceci dit, l'économie s'est pas totalement arrêtée et on a vu que l'effondrement du PIB, des économies, de certaines économies, hein, pas toutes, mais par exemple la restauration, le tourisme, le transport, etc., a permis un recul, certes significatif, des émissions de gaz à effet de serre, mais pas du tout suffisant.
Pas suffisant parce que pour les collapsologues, c'est le productivisme qui abîme la planète.
La menace la plus importante n'est donc pas forcément le virus. Elle reste, à leurs yeux, le changement climatique. Écoutez ce qu'en dit Bruno Defin, le directeur du Centre de recherche en économie et en droit de l'Université Paris 2.
Les tenants de ces théories, survivalistes, collapsologues, sortent renforcés de la pandémie, incontestablement. 72,4% des Français se déclarent plutôt d'accord avec l'idée collapsologique selon laquelle tout pourrait s'effondrer.
Et 2 sur 3.
2 sur 3, ce qui représente plusieurs dizaines de millions de personnes, si on traduit ce pourcentage au regard des effectifs de la population française.
Donc, on l'entend, l'idée collapsologue prospère, et dans le sillage de ces collapsologues, il existe une autre population qu'on appelle les survivalistes.
Ils sont autour de 300 000 en France, mais ils se préparent concrètement à cet effondrement. Écoutez, par exemple, Frédéric Cuvelier, il organise des stages de survie. Depuis une dizaine d'années, il voit sa clientèle augmenter.
Il ne faut pas oublier une période qui a été une période très charnière sur la survie, qui était 2012. 2012, c'était le calendrier Maya, vous vous rappelez de ça? C'était la fin du monde, normalement. Tout le monde avait peur que les Mayas aient raison. Et donc, j'ai des émissions de télé qui m'ont offert de sacrées sommes pour être avec eux dans la nature. Mon carnet a explosé complètement sur l'année 2012.
C'est vrai qu'il est devenu facile de jouer à Koh-Lanta à ses risques et périls. La profession n'étant pas réglementée. Cet été, par exemple, un jeune stagiaire s'est empoisonné avec une soupe qu'il croyait à base de carottes sauvages, mais qui contenait une plante de la famille de la ciguë. Le chef de stage n'avait rien détecté. C'est un ex-militaire mis en examen pour homicide et blessures involontaires, faux et usage de faux.
Donc les survivalistes sont de plus en plus nombreux. Comment se préparent-ils concrètement à cet effondrement ?
Eh bien, c'est très variable. Ça va du camping sauvage au stage de survie très sérieux, et même en zone urbaine, en passant par la construction, par exemple, d'abris souterrains. Enzo Petron, lui, en fait commerce. Il propose de louer au public des places dans un abri anti-atomique collectif qu'il a construit dans l'Essonne.
Nous avons un abri collectif sur Paris pour des gens qui souhaitent louer des places à l'année. Il y a un cas de problème, ils peuvent venir sans problème dans l'abri, il y aura de la nourriture, chacun a une place pour se reposer, tout ça. Donc il y a un lit, ils ont leur petit coin personnel. Le prix pour une place dans l'abri à Paris, dans l'abri collectif, est de 10 000 euros. Le contrat est de 5 ans, donc ils peuvent rester même 5 ans à l'intérieur, il n'y a pas de souci.
Jusqu'à 10 000 euros par an la location pour 14 mètres carrés habitables, il faut le préciser quand même.
Oui, en effet. Maintenant Philippe, il y a plusieurs catégories de survivalistes.
Oui, pour faire simple, vous avez ceux qui pensent que pour s'en sortir, il faudra prendre les armes et éliminer les plus faibles. C'est une frange très proche de l'extrême droite. Et puis, vous avez ceux qui pensent que seules des solidarités locales permettraient de s'en sortir. Écoutez l'écologiste Yves Cochet.
La solution n'est pas dans le repli individuel dans un bunker ou je ne sais quoi. Ça ne marchera pas. Ça marchera 2 ou 3 jours de plus que les autres. Mais c'est dans la démocratie locale, c'est-à-dire faire ce que j'appelle, moi, des biotopes de guérison sociale locale, des écolieux, des écovillages. Et ça permet localement de construire des démocraties où les gens sont solidaires. Puisque moi, mon mot d'ordre, ça sera localement qu'il faudra vivre. Votre groupe Facebook en 2035, il ne vous servira à rien, il n'y aura plus de Facebook. Et donc, c'est localement, avec 50 ou 500 000 personnes, eh bien, c'est s'entraider ou s'entretuer.
Et lui plaide donc pour l'entraide. Et il a conçu un éco-village en Bretagne pour expérimenter sur le terrain sa manière de voir les choses.
Merci Philippe Reltien. Qui sont les survivalistes et comment s'organisent-ils? C'est une enquête donc de la cellule Investigation de Radio France à retrouver en une de notre site franceculture.fr. On termine ce journal avec un mot du temps pour demain. Il sera plutôt maussade entre pluie et éclaircies, des averses orageuses fréquentes près de la Manche, de l'océan Atlantique et des Pyrénées. Sur la région PACA et la Corse, attendez-vous à des pluies, mais elles seront faibles et passagères. Du Grand Est au Massif central, les éclaircies seront en revanche plus nombreuses. Du côté des températures, comptez entre 9 et 14 degrés sur la plupart des régions le matin, sauf sur le sud-est, où le mercure sera supérieur à 20 degrés. Et l'après-midi, température entre 16 et 34 degrés.